On continue, là, comme c'est pas une série, mais il y a une mini-série. Okay. Une mini-série, ça veut dire qu'il va en avoir quelques prêches sur ce sujet-là, qui est sur le même thème que j'ai emmené les derniers messages. Sur de saisir les promesses de Dieu. Je crois qu'il est important qu'on réalise qu'il faut saisir les promesses de Dieu sur pas juste sur un aspect. L'autre jour, j'ai parlé de saisir les promesses de Dieu pour que ça y aille bien financièrement, pour qu'on s'enrichisse, que Dieu nous bénisse, qu'on ait comme une prospérité spirituelle, physique et matérielle. Dieu peut nous bénir, puis il faut être ouvert à ça, mais il y avait des conditions, puis il y a des promesses qui nous disaient que Dieu va pourvoir. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la base de la vie chrétienne. C'est saisir les promesses de Dieu pour avoir l'assurance du salut. Des fois, là, première question, avez-vous l'assurance du salut? Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Êtes-vous sûr que vous en allez au ciel? Ça, là, il y en a qui peuvent l'affirmer, puis il y en a qui peuvent douter. Avez-vous cette confiance intérieure que vous êtes sauvé? Parce que c'est pas juste une attitude intellectuel, c'est une confiance, je le sais que je suis sauvé. Je le sais que je fais partie de la famille de Dieu. Est-ce que vous savez que vous avez la vie éternelle? Le problème que nous avons, c'est que même si on est déjà sauvé, il nous arrive de douter. Puis c'est là qu'est le problème. Pas que c'est un problème, c'est vrai que c'est un problème de douter, mais ça arrive à tout le monde d'arriver des phases dans notre vie où ce qu'on doute de notre salut. Pourquoi? Parce qu'il y a un spécialiste de ça qui essaie tout le temps de nous miner notre pensée pour essayer de nous faire croire des mensonges, pour nous détourner de la vérité. C'est le diable, notre ennemi numéro un. Même le monde, des fois, dans nos familles, « Ben voyons donc, tu viens pas me faire la crainte, t'es si bon que ça pour aller au ciel. T'es pas meilleur que moi. » Puis là, il peut y avoir toutes sortes de pensées qui viennent de nos proches pour nous faire douter, puis nous déstabiliser dans notre confiance. Puis même notre corps, quand il ne file pas, puis qu'il est s'indorme un peu, il est malade, il souffre depuis une période, Dieu m'a-t-il abandonné? Je suis encore sauvé? J'appartiens-tu à Dieu, moi, là? J'ai-tu vraiment vécu? Là, même notre corps peut nous en mettre des doutes. Le point de la prêche d'aujourd'hui, c'est qu'il faut saisir les promesses de Dieu pour nous, qu'on ait l'assurance d'être sauvé. On a été sauvé par la foi, puis on se maintient dans notre vie chrétienne, dans les promesses de Dieu, puis c'est par la foi qu'on avance, pas par les sentiments, pas par les émotions, pas par les « parce que je suis béni, je suis sauvé, puis quand ça va aller mal dans ma vie, je le suis plus ». Il faut apprendre à baser notre foi sur des versets. La Bible me dit que après, quand le diable vient nous dire un doute, on prend le verset, Dieu dit que, that's it. Là, tu le rejettes, son influence, son injection de doute, tu le rejettes parce que tu as des versets pour dire, ma foi, c'est ça. C'est dans les Saintes Écritures, dans ce que Jésus a dit, dans ce que les apôtres ont enseigné. Sommes-nous capables de parler comme l'apôtre Paul dans Actes 27-25? Il dit, Paul, là, c'est un homme de foi. S'il a pu nous écrire tout ce qu'on a aujourd'hui, qui nous est resté aujourd'hui, c'est parce qu'il c'était pas un gars qui branlait dans le manche. Il était avec une pleine assurance, une pleine confiance. Il était capable de dire aux autres, là, même quand ça allait bien mal, là, il était en question, là, il était en train de faire un naufrage. Tout le monde avait désespéré de conserver la vie. Ça faisait peut-être 15 jours qu'il n'avait pas mangé. Puis que toute une personne avait mangé, puis que là, c'était le temps, ça faisait 14 jours qu'il disait dans le texte. Il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Avons-nous cette confiance en Dieu qu'il en sera tel que ça l'a été dit? Amen. Où est-ce que ça l'a été dit, ces choses-là? C'est dans la Bible. Est-ce que j'ai confiance que qu'est-ce qui a été dit dans la Bible qu'il va en être ainsi? Puis quand que ça va aller mal, puis ça va brasser, puis vous allez être dans des situations extrêmement difficiles, des épreuves incroyables, presque surnaturelles, puis être encore capable de dire, j'ai confiance qu'il va en être fait comme ça m'a été dit, parce que j'ai des promesses avec moi dans mes poches. Oui, il arrive de quoi, tu sors une promesse, qu'hein, c'est ça qui a été dit. On est-tu capable de faire comme Paul puis d'être comme ça? Le salut, là, d'être sauvé, là, c'est pas une théorie. Mais c'est une expérience avec Dieu. C'est quelque chose que tu as vécu. Être sauvé, c'est pas juste des connaissances qu'on a acquises. C'est une expérience. Puis vous allez le voir, là, dans ce que je vais apporter. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin là-dessus, mais je ne vais pas embarquer tout de suite là-dessus. Parce que c'est une expérience avec Dieu. Comme l'apôtre Paul qui nous dit, les personnes sont sauvées, ont une conviction intérieure par le Saint-Esprit. Mais des fois, on la ressent moins. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on la ressent plus. Les journées qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est là que la plupart du temps que les doutes embarquent, puis ça commence à aller mal. Dans Romains 9, 38, Paul il était capable de dire, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » On est-tu capable de parler comme l'apôtre Paul ce matin? J'ai l'assurance que rien peut me séparer de l'amour du Seigneur révélé à travers Jésus. Puis l'autre verset qui est juste après cette phrase-là, on la lit pas avec ce texte-là. Pourquoi? Parce que ça finit le chapitre, puis l'autre verset, c'est l'autre chapitre. Mais ça va dans la même idée. Il dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Ça va avec, ça. Lui, là, il dit, « J'ai l'assurance que rien peut me séparer de l'amour de Christ. » Puis il dit, « Je mens pas. » Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Ça veut dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as une conscience que la présence de Dieu est là. Tu es conscient. Tu le sais quand tu l'as vécu, bien entendu, quand tu as passé par la nouvelle naissance. Puis les moments que tu ne le vis pas, mais c'est là qu'il faut que tu apprennes à aller chercher ce que tu as besoin pour te tremper dans le Seigneur, être rempli, puis garder cette fermeté-là. Mais on n'est pas sauvé à cause des effets du salut. Là, des journées qu'on se sent rempli, on pète le feu, on est capable de faire de grandes choses. Puis là, on se pense sauvé. Puis le lendemain qu'on a un doute parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, puis on n'a même pas le goût d'aller à l'église, on n'a pas le goût de lire notre Bible, on n'a pas le goût de prier, puis on ne sera pas sauvé. On est encore sauvé. Notre assurance du salut ne doit pas dépendre de nos sentiments, de notre disposition de cœur ou de comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui, puis comment est-ce que, tu sais, puis tout ce qu'on peut vivre comme souffrance ou comme problème. L'assurance du salut doit être basée sur les promesses de la parole de Dieu. Ça change pas. Tout ce que Dieu a écrit, ça va demeurer éternellement. C'est sur ces bases-là qu'on est sauvé. J'ai pas été sauvé par celui qui m'évangélisait, il était rempli du Saint-Esprit, ou qui vivait charnellement. C'est à cause que j'ai vécu une expérience avec Dieu. J'allais le voir, c'est quoi les critères de base pour naître de nouveau. Une fois que tu as passé par là, tu n'as pas à douter de ton salut parce que tu feel high une journée, puis le lendemain, parce que tu feel high, tu es bien, puis tu penses que tu l'as, puis le lendemain, tu penses que tu ne l'as plus. Faut faire attention, frères et sœurs, parce que l'ennemi, c'est un spécialiste pour nous dire des choses dans notre esprit parce qu'on réagit. On ne regarde pas à bonne place. Premièrement, pour avoir vraiment l'assurance du salut, là, intérieurement, ce que le Saint-Esprit peut produire, nous devons obligatoirement l'avoir vécu. Nous devons vraiment avoir été nés de nouveau. Parce que si on n'a jamais été nés de nouveau, on peut pas avoir l'assurance du salut. Même si j'essaierais de me convaincre, je suis sauvé. Si t'as pas passé par la nouvelle naissance, si t'as pas vécu cette expérience de recevoir l'Esprit Saint, en passant par les critères de la parole de Dieu, tu peux pas essayer de penser de te faire accroire que tu l'es. Sinon, tu crois en un mensonge. Puis la Bible dit que Dieu va enlever à ceux qui pensent avoir. Parce qu'ils n'ont pas passé par le bon chemin, ils sont pas dans le bon chemin, carrément. Si tu n'es pas dans le bon chemin, tu peux pas te faire accroire que tu es dans le vrai chemin. Ça sert à rien. C'est d'essayer d'être hypocrite, c'est essayer de jouer une comédie, une belle pièce de théâtre, de faire semblant qu'on est chrétien, qu'on n'a pas passé par le Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir. Une vie religieuse ne peut pas nous amener à recevoir l'assurance du salut. Corneille, c'est un homme pieux, Dieu l'a déclaré, c'est un homme pieux. C'est un homme qui priait, c'est un homme qui faisait des aumônes, c'est un homme qui croyait en Dieu, puis il n'était pas sauvé. Puis là, l'ange lui a dit, tu vas aller voir Pierre à telle place, tu vas aller le chercher, puis il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Mais ce gars-là, il était un homme religieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui était pieux, puis il n'était pas sauvé. Une religion ne sauve pas. Faut que tu entendes les vraies affaires, puis tu reçois les vraies affaires. Là, après, tu es sauvé. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Parce que c'est dangereux, ça, là. On en a parlé un petit peu à matin, en arrière. Les religions se disent enseigner le chemin, la voie qui mène au salut. Là, ils ont inventé, puis ils parlent du ciel, puis ils parlent de la vie éternelle, puis ils parlent de toutes les promesses. Mais même les musulmans, ils pensent d'y aller quand ils se font exploser, là. Puis il tue 50 personnes, il pense qu'il s'en va au ciel. Il est sincère, ce gars-là. Tu peux-tu avoir un gars plus sincère que ça, qui est prêt à se suicider et qui le fait? Faut qu'il soit réellement convaincu. Mais il est convaincu d'un mensonge, puis il s'en rend même pas compte, puis il sait pas que c'est un mensonge. Pourquoi qu'il sait pas? Parce qu'il a pas lu la Bible. Il a pas lu la Bible. Il se fie à son lit, puis il se fie à son imam, puis il se fie à ses amis qui sont autour, qui sont tous des terroristes, puis ils veulent tuer tout le monde. Puis ils pensent de gagner des points devant Dieu parce qu'ils sont... Mais croire, même si t'es sincère que tu crois, là, t'es sincère, mais si tu crois pas dans la bonne affaire, t'es sincèrement dans l'erreur. Puis il faut réaliser que c'est pas la sincérité qui sauve. C'est la foi en la bonne chose. Il y a un seul chemin qui nous a été donné par lequel on peut être sauvé. Juste pour parler de la vie religieuse, comment c'est dangereux pour l'ensemble de l'humanité, ces religions-là, toutes les religions. Bon, il y en a apparemment au-dessus de 2000 juste dans la région de Montréal, mais toutes les religions sur la Terre, c'est un danger pour l'humanité. Pourquoi? Parce que ça peut être des religions qui enseignent à faire de bonnes choses. Mais c'est pas ça qui les amène dans la vie éternelle. Ils s'en vont tous dans l'étang de feu pour l'éternité. Il y a un seul chemin. Puis Paul, il nous en parle. Là, il y a plein de passages qui nous en parlent. Comme là, dans 1 Timothée 4, ça nous dit que l'Esprit Saint, là, il nous dit expressément que dans les derniers temps, c'est le Saint-Esprit qui a prophétisé que dans les derniers temps, c'est quand ça, les derniers temps? C'est nous autres, les derniers temps. On peut pas être plus dans les derniers temps qu'on est rentré là. Il reste juste quelques événements qui arrivent avant le retour de Jésus-Christ. On peut pas être plus tard que ça. L'Esprit a dit que dans les temps où ce que nous sommes présentement, là, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça nous dit dans ce passage-là, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui dit que dans les derniers temps, il va y avoir plein de monde qui prêche des faussetés, enseignant d'autres chemins pour être sauvés. Puis ça dit que ces gens-là sont hypocrites. C'est de l'hypocrisie. Il dit par l'hypocrisie ça dit par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils savent dans leur cœur qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Ils savent dans leur cœur qu'ils ne sont pas sauvés. Ils savent dans leur cœur qu'ils n'ont pas la communion avec l'Esprit-Saint. Ils savent dans leur cœur qu'ils invoquent des morts, puis qu'ils invoquent Marie, par exemple, ou qu'ils invoquent d'autres choses, des saints, ou invoquer le Père qui est mort. Ils invoquent n'importe quoi, sauf les Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Ils savent qu'ils ne sont pas sauvés, puis là, ils jouent leur religion, ils jouent leur rôle, puis ils continuent à chaque semaine à regrouper leurs ouailles pour recevoir leur enseignement, puis qu'ils les gardent captifs. Puis ça dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, qui ont là, dans leur conscience, c'est écrit qu'ils savent qu'ils ne sont pas corrects, puis il dit qu'il y en a des vrais qui vont abandonner les vraies choses, la foi, pour s'attacher à ces esprits-là qui sont des esprits séducteurs. L'esprit qui est en arrière d'un enseignant d'une autre religion, c'est un faux prophète, un esprit séducteur, c'est un piège pour les chrétiens, et pas juste pour les chrétiens, pour l'ensemble de l'humanité. Parce qu'il y a une personne bien intentionnée qui cherche Dieu, puis qui se ramasse dans une religion comme ça, mais ils viennent de se sceller pour l'éternité, s'ils ne changent pas de chemin, il est fait. Il va croire aveuglément aux mensonges enseignés, puis il va se ramasser dans les temps de feu. C'est grave, c'est grave. Puis là, on parle aux chrétiens. Le but aujourd'hui, c'est saisir ces promesses de Dieu pour avoir l'assurance. Puis une fois que tu l'as, l'assurance, tu vas entendre parler ces faux prophètes-là, puis tu veux rien savoir. Tu sais c'est quoi qui sauve, c'est pas ces faussetés-là. Il y a seulement deux chemins dans ce monde. Il n'y a pas 100 chemins ou 2000 chemins. La Bible dit qu'il y en a juste deux. Exact. Puis le pire, c'est que l'ensemble de l'humanité, dont nous-mêmes, avant d'être chrétiens, nous étions tous dans le chemin large et spacieux, rassurés même par nos fausses religions, puis on s'en allait tous à la perdition. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne nous révéler c'est quoi la pensée de Dieu, puis attire notre attention sur Jésus, il a attiré notre attention sur la parole de Jésus. Puis là, on lit cette parole, puis il nous a montré c'est quoi le chemin. Puis là, aujourd'hui, on a pris une décision. On lâche tout ça. Puis là, maintenant, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Puis on va voir les critères. On s'est engagé, puis on le suit. À cause de ça, nous sommes sortis du chemin large, puis nous sommes rentrés dans le chemin étroit. Il y a une porte à trouver, puis un chemin à trouver. Ça nous dit « entrer par la porte étroite ». Quelle est cette porte? Jésus est la porte. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ça fait bien de la peine, ça fait bien mal au cœur. Ils rentrent là qu'ils veulent pas, convaincus, pas convaincus dans leur religion. Mais étroite est la porte, ça c'est Jésus. Resserrer le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus et sa parole. Il y en a peu qui les trouvent. Faut que tu trouves la porte puis le chemin, puis tu restes dedans. Puis tu fais attention, comme qui est dit, que tu fasses pas partie de ceux qui vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs, puis là, de changer de chemin. Quel est le véritable chemin biblique pour s'assurer que nous sommes véritablement sauvés? Si tu écris clairement dans la Bible comment faire pour être sauvé, oui, tu peux l'aller, puis tu vas tomber ces versets, puis tu vas y comprendre. C'est facile. On va lire les passages sur les différents points. Là. Il y a plusieurs étapes pour être vraiment faire partie des élus. J'en dénote 6. Allez voir. Premièrement, il faut reconnaître notre état de pécheur devant Dieu. Je pense pas qu'on ait de misère avec ça. Si on est franc avec nous-mêmes, là, je pense pas qu'on a de la misère à s'avouer qu'on est pécheur. Parce que même étant chrétien, après 30 ans, on peut encore se le dire. Puis même, je vais vous dire, j'en vouais plus à 30 ans d'expérience de vie chrétienne de péché, j'en vouais plus que quand que je me suis converti. Quand je me suis converti, je ne connaissais pas les péchés. On les faisait, puis on s'en rendait même pas compte. Mais quand ça fait 30, 40 ans, 50 ans que t'es chrétien, t'es, sont encore là, puis tu combats contre encore, puis tu t'en aperçois que c'est là. Premièrement, il faut reconnaître notre état de pécheur. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Ça fait partie de ce que on base notre foi. On se fie pas. Ouais, mais le péché, c'est démodé. On devrait même enlever ça de ce mot-là dans le dictionnaire. Ça n'existe plus, ça, le péché. Mais ça, c'est la pensée qui évolue, la pensée du monde. Mais la Bible, elle n'a pas changé, puis elle n'a pas l'intention de changer non plus. La Bible, elle demeure éternellement, puis tout ce qui est écrit là va s'accomplir comme ce livre-là, là, c'est celui-là qui va juger le monde au dernier jour. Les paroles de Jésus qui vont juger le monde au dernier jour. Même si les humains essaieraient de faire des photocopies, puis modifier les traductions, puis commencer à changer les écrits, ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir, puis on peut pas changer rien de tout ça. Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est pas dur à s'inclure, je fais partie des tous. Il n'y a pas d'autre place qu'en dehors de tous qu'on peut se placer. Y a-t-il une autre place en dehors de tous où ce qu'on peut se placer? Non. La Bible dit que tous ont péché, je fais partie des tous, et toute ma famille fait partie des tous, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, nomme-les, mes voisins, mes amis, mes compagnons de travail, l'ensemble de la planète, l'ensemble des humains qui existent depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, c'est des tous. On est tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais on ne le demeure pas tous dans la condition, dans la conséquence du tous, là. On n'est pas tous dans la conséquence. Il y en a qui ont été libérés de la conséquence du péché. 1 Timothée 1.15, il dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul n'était pas gêné de dire qu'il était un pécheur, lui, avec. Donc, premier critère pour savoir si vraiment je suis un chrétien, est-ce que je reconnais que je suis un pécheur? Facile, celle-là. C'est évident pour tous. Même les autres pourraient nous le dire que je suis pécheur. Prends ou faux? Non. Pendant ma femme. Ça, c'est la première témoin de mes défaillances. Après Dieu, bien entendu, et les milliards d'anges. Fait qu'il y a pas mal de monde qui sont conscients de qu'est-ce que je peux être. Puis Paul aussi, qui était, moi je dirais, le top dans les chrétiens, là. Dans les fruits du salut, là, c'était Paul qui était le top, puis lui tout, il était pas gêné de dire qu'il était un pécheur. Faut être capable de dire la vérité, puis de lâcher, de se compter des menteries, se regarder dans le miroir, puis de se penser juste, de se penser bon, de se penser fin. Ça, c'est l'orgueil humain. On n'est rien. Puis il faut être capable, même en se regardant dans le miroir, t'es rien qu'un pécheur. Sauvé par grâce, mais t'es un pécheur pareil. Il faut reconnaître que Jésus, ça c'est le deuxième point, il faut reconnaître que Jésus-Christ a été envoyé pour nous sauver. Amen. Il est là que ça commence à faire la défaillance, qui fait une séparation entre les religions et le plan du salut. Parce que là, tu es obligé de te heurter tout de suite à la porte. Il y a deux portes. On est déjà dans l'autre chemin. La seule chance ou le seul moyen par lequel tu peux changer du chemin large au chemin qui mène dans la vie éternelle, faut que tu rentres par la porte étroite. Faut que tu reconnaisses que cette porte-là est là, puis que cette porte-là est accessible pour toi, parce que tu te reconnais pécheur. Si tu te reconnais pas pécheur, tu peux pas passer par cette porte-là. Même si tu connais la porte, tu peux pas y passer. Faut que premièrement, tu réalises que tu as besoin du salut. T'es pécheur. Tu t'en vas dans l'état de feu. Tu peux pas gagner ton ciel. Faut absolument que tu réalises ça. Faut que tu crois que le seul moyen d'être sauvé, c'est de passer par cette porte. Quelle est cette porte? Amen. Il faut reconnaître que Jésus-Christ a été envoyé pour nous sauver. Ça, dans 1 Jean 4,14, ça nous dit, « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Nous le reconnaissons et nous l'attestons. Attester, ça veut dire nous en parlons, nous le confessons, nous le proclamons, nous le crions. Jésus sauve! Alléluia! C'est le sauveur envoyé par le Père. Alléluia! 1 Jean 4,10. Et cet amour consiste non pas de ce que nous avons aimé Dieu, mais de ce qu'il nous a aimé, puis qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu peux pas avoir plus clair que ça. C'est Jésus qui nous pardonne. Grâce à son sacrifice, il est une victime exprès pour que je puisse être pardonné, pour effacer mes péchés. Fait que le premier critère, c'est faut que je reconnaisse que je suis pécheur. Deuxième critère, faut que je reconnaisse que c'est le Père qui a envoyé Jésus. À plusieurs passages, Jésus a dit, je suis issu du Père. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Jésus était dans le Père, puis il a sorti du Père pour venir dans le monde. Mais il existait d'avance dans le Père. Pour qu'il soit issu, il fallait qu'il soit là. Une fois que tu reconnais que Jésus est issu du Père, parce que ça nous le dit, il y a plusieurs passages qui nous parlent que Jésus vient d'en haut, il fait partie du royaume d'en haut, il a quitté sa gloire, puis il est venu en forme humaine, comme un simple homme. Mais il a quitté ce qu'il avait pour venir. Donc, il faut le reconnaître, parce que si on ne croit pas que Jésus vient du Père, puis qui est son fils. Oui.
La Bible nous dit ça, moi et le Père, nous sommes un.
Oui. Il est en un en communion, puis avant qu'il soit dans sa chair, il était un dans la toute-puissance, dans l'éternité, dans la omniscience, puis l'omniprésence. Il a quitté tout ça pour venir en un bout de temps en simple homme. Après ça, il a tout retrouvé ce qu'il y avait auparavant.
Amen. Amen.
Ouais. Montre-nous le Père, dit. C'est ça. Troisième critère pour savoir si on est vraiment sauvé, il faut se repentir et se convertir afin de recevoir son pardon. Acte 2:38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça veut dire, tu as beau le savoir que Jésus sauve, tu ne l'es pas encore sauvé, tant et aussi longtemps que tu t'es pas repenti. Y en a-tu qui savent ce que ça veut dire, repenti, repentance? Changer de chemin. Ça veut dire, avant, là, tu t'en allais dans le chemin de la perdition, puis tu faisais tout ce qui était devant toi. Faut que tu arrives un moment dans ta vie, tu dis, je veux plus rien savoir de tout ça. Seigneur, je veux te suivre. C'est ça, se repentir. C'est changer de direction. Tu t'en vas vers le Seigneur après ça. Et, acte 3:19, repentez-vous, ça c'est un autre verset, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les deux versets nous parlent, c'est afin que vos péchés soient effacés. Fait que là, le gars, il était en cette direction-là, vers dans le monde, puis il vivait dans tout ce qui passe devant lui, la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, qu'on vit selon le siècle, selon le monde, dans nos convoitises charnelles, selon le diable, selon le prince de la puissance de l'air. Nous tous, nous étions de leur nombre, puis nous étions par nature, c'était naturel, tu viens au monde comme ça, nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais à un moment donné, tu dis, Seigneur, là tu sais, là tu viens d'apprendre que Jésus peut te pardonner, je veux plus rien savoir. Là, je me tourne vers toi, Seigneur, puis je t'accepte comme mon Seigneur. Là, tu ne veux pas juste te tourner pour le suivre, tu commences à vivre ce qu'il te demande. Ça, c'est se convertir. C'est de commencer à changer de vie, à faire des pas dans ta vie qui démontrent ta foi. Puis on va le voir dans quelques-uns des pas, mais un exemple, se faire baptiser d'eau, c'est un des pas. Mais on en voit un autre encore bien plus simple dans le prochain point. Mais pour être sauvé, là, ça nous dit là, pour être que vos péchés soient effacés ou pour avoir le pardon de vos péchés, faut que tu te repentes et tu te convertisses. Si la personne n'a pas compris ça, elle n'a jamais été pardonnée. Même si elle sait que Jésus peut la sauver, si elle n'a pas pris la décision elle-même, c'est pas sa mère qui décide parce qu'elle a décidé de la faire baptiser quand elle était bébé, ça sert à rien. C'est ainsi. C'est toi, quand tu es conscient, tu crois dans ton cœur, puis tu prends une décision devant Dieu, tu acceptes Jésus-Christ, puis tu fais la prière de repentance, c'est là que ça commence à changer. C'est là que tu es pardonné, et tu vas recevoir d'autres choses en plus pour t'aider dans ta marche. On va le voir dans les prochains points. Mais il n'y a pas d'autre chemin, frères et sœurs. C'est les chemins que la Bible elle enseigne pour être sauvé. Quatrième point, faut que tu le confesses ta foi de ta bouche au Seigneur. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche, je sais pas s'il y a d'autres moyens de confesser que par notre bouche, là, mais tu peux le démontrer par tes œuvres. Ah, tu peux l'écrire, mais là, Dieu nous demande de le dire. Les seuls qui peuvent être exempts de ça, c'est les muets. Puis là, Dieu, ils ont besoin de guérison pour y arriver, mais ils peuvent le faire dans leur cœur, puis ils peuvent le faire par écrit, probablement. C'est sûr que ça compte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Car, il y a un car. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Là, le gars qui a réalisé, il fait pas juste réaliser que Jésus sauve. Il décide de tout lâcher puis demande au Seigneur, « Seigneur, je veux plus rien savoir de ma vie de péché. Tu tournes vers Jésus. » J'accepte, tu le confesses de ta bouche, tu fais une prière à Dieu, tu le dis. Tu confesses ta foi, c'est ça que ça vient de dire, là. Ouais. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je mérite rien, mais je crois que tu es venu pour pardonner mes péchés, puis c'est le Père qui t'a envoyé, puis le Père t'a même ressuscité pour que je sois pardonné. Tu confesses toute l'œuvre de Jésus là, en disant ça. Je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, puis je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie, là tu commences, c'est ton premier pas de foi, c'est de le confesser, je veux te suivre, puis là, tu confesses ça à tous les jours, c'est d'autres pas. Tu vas rencontrer ta mère en revenant de l'église quand tu l'as confessé. Mais j'ai confessé que je croyais en Jésus, puis je l'ai accepté, c'est d'autres pas, puis à chaque pas que tu confesses, c'est d'autres pas. Tu prends position pour Jésus, puis tu confesses toute ta vie. Jésus dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est là que ça se vit. Ça commence comme ça. Puis il faut pas négliger les petits commencements, mépriser les petits commencements. Fait que la personne parvient au salut quand elle s'engage de sa bouche. Quand on se marie, c'est la même affaire. Oui, je le veux. Mais c'est la même chose. Tu le confesses à Dieu, puis tu le confesses que tu crois dans ton cœur, puis tu commences à faire des pas de foi dans l'obéissance. Là, après ça, tu vas accepter de te faire baptiser d'eau, tu vas aller dans une église, puis ta vie va changer. Cinquième point, tu demandes de recevoir le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il ne faut pas penser qu'on peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle naître de nouveau. Dans Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau, parce que t'es né de la chair. Mais tu n'es que chair. Faut que tu naisses de l'esprit. Faut que tu le reçoives, cet esprit-là. Dans Jean 20, 22, ça dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean 1, 12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu as passé par ce chemin-là, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu fais partie de la famille d'en haut. Ça nous dit que tu as changé de royaume. Sans naître de nouveau, tu peux pas voir le royaume. Faut que tu passes par là. Là, le point qui est le petit hic qu'il faut comprendre, là. Recevoir le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire nécessairement être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance pour être un témoin. Mais tu peux être sauvé avant de recevoir, si tu reçois le Saint-Esprit. Mais ça se vérifie si on a reçu le Saint-Esprit. Puis il faut s'assurer qu'on l'a reçu. Amen. Est-ce que ça nous arrive de vivre des moments intenses où on y parle, puis on entend qu'il nous parle? Puis il nous dit de quoi? Il nous parle dans une prêche, on écoute, puis il nous dit d'écouter, ou il nous dit de... Là, il faut apprendre à écouter sa voix. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix.
Combien on fait pour différencier sa voix de la petite voix que nous autres, on veut?
Mais c'est vrai qu'il y a une petite voix que nous autres, on veut, parce que dans notre tête, il y a plusieurs voix qu'on entend. Oui. Oui, c'est mélangeant. C'est pour ça que pendant qu'on s'en parle, c'est le temps de faire le point. Il y a notre voix personnelle quand on pense. Des fois, ça vient... Notre pensée même est différente des fois. Des fois, c'est une pensée. On pense comme si on parlerait une phrase. Puis des fois, on pense par image. Puis des fois, tu penses à une affaire, puis là, oups, on sent que ça vient d'ailleurs, d'un autre compartiment. Tu te rappelles une chose, mais ça rentre dans ta pensée, mais ça vient du subconscient ou de la mémoire. Appelez ça comme vous voudrez. Il y a de la mémoire morte, la mémoire vive. Parce que dans la Bible, pas dans la Bible, dans les ordinateurs, il y a les deux. Fait que là, il y a ces pensées-là qui viennent de nous et des esprits qui sont autour, ouais, qui peuvent nous parler. Exact. Autant des esprits qui ne sont pas de Dieu que l'Esprit de Dieu, ouais, peut nous parler. Et aussi, notre corps peut nous parler. Ouais. Il y a une volonté, notre corps. Je l'ai déjà entendu parler plusieurs fois. Puis, distinctement, je vais vous le compter bien vite, j'étais en train de jeûner, il faisait 3 jours que je jeûnais sans rien. Puis là, pendant que j'étais en prière, puis là, j'ai entendu mon corps me dire, j'ai faim, me lâchait un cri qui venait d'en bas, puis qui me lançait ça dans mes pensées. C'est là que j'ai compris que le corps, puis comme que la Bible elle dit, on marchait dans la volonté de notre chair et de nos pensées. Notre chair, notre corps, elle a une volonté, puis elle pense, puis elle veut des choses. C'est ces convoitises souvent qui nous égarent. Ce qu'elle désire dans les choses que Dieu veut pas. Fait que là, il faut commencer à faire le ménage, là. Premièrement, à faire mourir les actions de notre corps. À chasser les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que le diable, s'il nous shoot un doute, s'il nous shoot quelque chose qui est pas de Dieu, ça se distingue quand même assez clairement. Quand tu es sensible à la volonté de Dieu dans ta pensée, tu lis la Bible, tu connais le plan de Dieu, tu l'entends, tu le perçois quand c'est une pensée qui vient pas de Dieu, tu peux la chasser. Dieu va toujours nous parler en rapport avec sa parole. Le Saint-Esprit, quand il nous parle, il nous parlera jamais contraire à ce qu'un verset qui est écrit là. Mais il nous confirme ce qui est écrit là. Il nous rappelle ce qui est écrit là. Tu vas être en recherche de connaître les pensées de Dieu, connaître la volonté de Dieu sur un sujet, puis tu vas avoir des pensées qui viennent basées sur les écrits, puis ça t'amène à comprendre, « Ah oui, c'est ça que Dieu veut. » Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on peut pas percevoir les choses de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut pas comprendre le plan de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui amène une personne à repentance. Il a fallu que le Saint-Esprit, il donne déjà des pensées pour lui faire réaliser qu'il est pécheur, pour lui faire réaliser que Jésus est venu il y a 2000 ans, pour lui faire réaliser qu'il a besoin du salut. Il a fallu que le Saint-Esprit y parle. Tu peux pas apprendre rien de Dieu sans que l'Esprit de Dieu te le mette. Puis chaque fois que tu entends des choses dans ta tête, que c'est des pensées sur des choses de la parole de Dieu, puis que ça t'explique des affaires, puis tu réfléchis là-dessus, puis ça nourrit ta méditation, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, parce que sans ça, tu pourras pas avoir cette pensée-là qui a les révélations. C'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Puis ça nous dit clairement que si quelqu'un confesse que c'est Jésus-Christ qui est venu en chair et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a montré. Puis quelqu'un qui s'y confesserait, mettons, Jésus, il est pas Dieu. Mais ça, c'est l'Esprit de l'Antéchrist. C'est l'Esprit de l'Antéchrist qui parle dans ce temps-là. C'est un autre esprit qui parle pour essayer d'abaisser Jésus. Jamais le Saint-Esprit va faire ça. Faut reconnaître les choses comme que ça a été expliqué dans la parole de Dieu. Si tu rentres dans ces pensées-là, c'est parce que tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. C'est-tu clair? Là, c'est à vous à analyser vos pensées. Quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez les prêches, est-ce qu'il y a des déclics? Oups, je comprends ça. Oups, je comprends ça. Oups, il y a des choses qu'on apprend. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui nous les montre à mesure que vous écoutez ce qui est en train d'être enseigné. Sans ça, si vous n'auriez pas le Saint-Esprit, vous écouteriez, là, puis ça ne nous rentre pas dans la tête, puis là, on pense à n'importe quoi d'autre, ça ne rentre pas. Il y a un voile. Mais il faut le demander de naître de l'Esprit. Quand tu t'es tourné, là, tu fais la prière, tu as accepté Jésus, tu l'as confessé, tu veux le suivre et le servir, mais tu as besoin d'aide pour recommencer ce chemin-là. Tu peux pas faire ce chemin-là tout seul. Tu lui demandes le Saint-Esprit, puis il va venir en toi. C'est ça que ça nous disait dans l'autre passage. Repentez-vous. Là, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu reçois le don du Saint-Esprit après que tu t'aies repenti. Avant de te convertir, tu peux avoir vécu des choses avec le Saint-Esprit. Il t'a parlé, tu étais en prière chez vous, tu pleurais, puis tu as senti qu'il était là, puis il voulait te montrer qu'il était là. Mais tu n'es pas encore sauvé tant que tu t'es pas réellement converti. Parce qu'il faut que tu passes par le pardon avant de recevoir. Faut que tu sois lavé de tes péchés. Le Saint-Esprit peut pas venir là en toi si tu n'as pas passé par le nettoyage. Puis il faut que tu sois repenti pour vivre ça. Là, tu t'es tourné, tu reçois le pardon. Après ça, tu demandes le Saint-Esprit, tu le reçois, puis il marche avec toi. Après ça, tu vas vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Ces expériences-là, faut apprendre à développer ça. À en vivre de plus en plus des choses merveilleuses. Tu lui demandes les dons spirituels, il va te les donner. Tu lui demandes de vivre des affaires, il va te faire vivre des affaires. Ça va te confirmer. Il y a un verset qui nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, Paul y disant, tantôt, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça veut dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit. Fait que t'es conscient, t'entends l'Esprit t'encourager à rester dans la foi. Ben, t'es un enfant de Dieu si t'es capable, si tu vis ça. Tu l'as reçu, Saint-Esprit, puis Saint-Esprit, il t'a emmené à la croix pour recevoir le pardon. Puis là, tu avances en demandant le Saint-Esprit, tu avances dans ce chemin-là, dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Tu restes en lui, puis lui en toi. Tu demeures en communion avec lui. Tu peux le recevoir, mais c'est pas pour le salut, c'est pas un critère. Tu peux demander le baptême du Saint-Esprit, tu vas vivre des expériences avec le Seigneur, mais c'est pas les expériences avec le Seigneur qui nous sauvent. C'est notre repentance en confessant, c'est ça qui sauve. Les autres expériences, c'est d'une église à l'autre, la manière qui acceptent ou qui sont ouverts à certains aspects des dons spirituels, il y en a d'autres qui sont moins ouverts. Fait qu'il y en a qui n'en vivront pas, puis il y en a qui vont en vivre plus de dons, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. S'ils ont passé par la porte, puis ils demeurent dans le chemin. Sixième point, pour être sûr qu'on est des élus qui vont rentrer dans la vie éternelle. Puis si on est capable de se le dire aujourd'hui, ici, là, parce qu'on a passé par les cinq premiers, puis si on est en cours d'écouter ce message-là, puis on est capable de dire « Amen » à ce point-là, ça veut dire qu'on l'a accompli. Il faut persévérer dans notre foi jusqu'à la fin.
Amen.
Gloire à Dieu! Si vous êtes en cours ici en train de dire, vous êtes de ceux qui persévèrent. Vous êtes de ceux qui persévèrent. Vous êtes encore là, puis en train de le dire. Puis il faut que ça soit encore de même demain, puis après-demain, puis après-après-demain. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire à Dieu! Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne relâchiez point, mais que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Puis ça, là, c'est des versets sur lesquels il faut s'appuyer quand on a des doutes. On a-tu des doutes sur notre salut?
Non.
Est-ce qu'on a des doutes sur ce que Dieu dit dans sa parole? J'ai-tu passé par le chemin pour le recevoir? Suis-je encore dans le chemin resserré qui mène à la vie? Si je le suis, je fais partie des élus. Si je persévère jusqu'à la fin, je correct. Tant que j'abandonne pas, je suis dans le bon chemin. Ayons l'assurance. Puis c'est pas à cause que dans le chemin resserré que vous trébuchez, puis que là, mettons, vous avez fait un péché, là. Vous avez compté une menterie. C'est un des 10 commandements de Dieu. On va le voir un peu plus tard dans des études. J'ai déjà un plan pour ça, si Dieu le permet. Tu mens, t'es pécheur, t'es condamnable au plus haut point. Sauf que le sang de Jésus est encore là. Tu peux encore demander pardon au Seigneur, puis il te pardonne à mesure.
Est-ce qu'on est béni?
On a tout pour se rendre. On a tout pour se rendre. Gloire à Dieu. Voici quelques versets contenant des promesses de Dieu qui confirment notre salut. Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervient par un serment. Puis là, il dit, « Afin que de deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, puis elle pénètre au-delà du voile. » Là, c'est sûr qu'il est compliqué, il est long, ce passage-là. Puis il y a des mots d'une pièce à quart. Dieu, là, il compte pas de menterie. C'est impossible que Dieu mente. Il y en a juste un qui est le père du mensonge. C'est le diable. Dieu ne ment point. Puis Dieu, il a parlé en promettant le salut à travers Jésus-Christ. Dieu a parlé en jurant. Fait que là, il y avait deux choses qui nous prouvent que c'est vrai. Premièrement, c'est impossible que Dieu mente. Puis deuxièmement, il l'a promis avec une garantie. C'est garanti. Ses promesses sont garanties. Puis il est impossible que Dieu mente. S'il l'a promis, ça va s'accomplir tel que ça a été dit. C'est la base de notre salut. Si on commence à douter sur ce que Dieu a dit... Mais on est en train d'écouter le diable. Dieu, as-tu réellement dit? Puis là, je suis pas sûr. Mais là, on rejette ça, là, les pas sûrs. Puis y as-tu réellement dit? Tu ressors ta Bible, tu sors le verset. Oui, il a dit ça ici, là. Fait que c'est réglé. C'est réglé. Il dit, cette espérance, là, du salut, là, il dit, on la possède comme un ancre dans notre âme. C'est quoi ça, un ancre? Ça amarre un gros bateau, ça, un ancre. Même les gros transatlantiques ont des ancres. Puis quand l'ancre est accroché, ça ne sort pas de là. Mais le salut, là, c'est comme un ancre qui est accroché dans notre âme, sûr, solide, puis elle pénètre au-delà du voile, dans les lieux célestes. Cet ancre-là, c'est un ancre qui vient pas de nous. Ça vient d'en haut. Elle sort du lieu céleste, puis elle pénètre dans notre âme, puis elle nous amarre, puis là, elle nous garde. C'est extraordinaire. Dieu nous garde. C'est ça que Paul il dit, il n'y a pas une autre créature qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Dans Jean 3, 16, un beau verset que tout le monde connaît pour nous donner l'assurance du salut. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire à Dieu! Jean 5, 24. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alléluia! Gloire à Dieu! 1 Jean 5, 12. « Celui qui a le Fils a la vie. » Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Hallelujah! C'est extraordinaire. Un dernier verset que je vais vous lire ce matin, Hébreux 10, 16. Ça, là, c'est un genre de petit résumé de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Toute notre foi est basée sur la fidélité de Dieu. C'est ce que Dieu ne ment point. Dieu, ce qu'il a promis, il va l'accomplir, puis il n'y a rien pour changer ça. Puis nous, ça nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Quand tu professes de quoi? Bien, il y a deux sens, le mot professer. Tu peux le professer en le confessant, mais ça peut être une profession aussi dans la manière que tu la vis. C'est ton métier, ta profession. Ton mode de vie d'être chrétien, c'est un ministre, c'est un... j'ai un mot qui m'échappe là. C'est quand tu t'es appelé à travailler dans l'œuvre du Seigneur, une vocation. Le mot vocation s'adresse uniquement au niveau des choses religieuses, aux choses d'un appel dans l'œuvre de Dieu. C'est ça une vocation. Ceux qui prennent ce mot-là parce qu'il y a une vocation d'être dentiste ou d'être médecin, ça n'a pas rapport. Le mot vocation a tout rapport face à Dieu. L'appel de Dieu dans le travail de Dieu, puis ça, c'est notre profession. Puis on doit retenir fermement cette profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut s'approcher, frères et sœurs, avec un cœur sincère, dans plénitude de foi. Doutez pas. Laissez pas le doute vous envahir. Vous êtes sauvés, vous avez passé par les 6 critères, vous êtes encore là dans cette foi-là, vous êtes sauvés. Laissez pas le mensonge rentrer, persévérez, ayez ce cœur sincère-là jusqu'à la fin, dans la plénitude de la foi. Purifiez-vous d'une mauvaise conscience, parce que ça peut arriver qu'on a une conscience qui nous accuse parce qu'on a fait des péchés encore. On demande pardon, puis c'est fait. Dieu dit que je me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Puis notre corps, il est lavé par l'eau pure de la parole de Dieu. Est-ce que il y a là-dedans des belles promesses pour nous augmenter notre assurance à propos de notre salut? Gardons cette assurance-là, frères et sœurs. Laissons-nous pas voler. Peu importe ce qui arrive dans ce monde, persévérons dans cette foi-là, puis on va se revoir à l'autre bord.
Yes.
Prions. Amen. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole, tes promesses, tout ce que tu m'as là, Seigneur. Sans cela, Seigneur, on serait errant, vagabond, aveugle. On serait dans le monde, puis on comprendra rien de ce que tu nous as enseigné. Puis merci de ton Saint-Esprit qui nous révèle toutes ces choses-là. Merci pour ta parole qui nous fait du bien et qui nous fortifie dans notre foi. Seigneur, garde-nous dans la foi. Cette encre que tu as mis en nous, dans notre âme, qu'elle soit bien ancrée fermement, puis qu'on persévère dans cet enlignement jusqu'à la fin. Puis je te prie pour tous ceux qui entendent ce message, Seigneur, puis qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ. Seigneur, touche-les. Fais leur comprendre. Attire-les, puis que toutes les gens qui entendent le message puissent abandonner toute résistance et puissent se tourner vers toi pour t'accepter comme leur sauveur personnel et qu'ils puissent être sauvés eux aussi. Je remets nos vies entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.